Donc j'ai promis, parce qu'on m'a dit, que j'allais mettre cette casquette quand je parlerai des chrétiens en Ukraine, quand nous viendrons parler d'eux ici. Et en plus, la personne qui me l'a donné, on parlera de lui un peu après, il a aussi dit que ça me rend plus beau.
Là, bon, toujours ça.
Je sais pas, mais bon. Voilà. Voyage humanitaire en Ukraine. Les trois villes que nous avons visitées, où nous avons déposé des choses, il y a Kiev. Je suis désolé, je ne sais pas le prononcer. Je regarde. Comment ça se dit?
Kiev.
Ouais.
Bah,
c'est le mot, c'est Aralik. Donc, je suis du mieux que j'avais. Désolé. Isabelle a parlé de comment on aide. Et en fait, tout a commencé avec un ami à moi qui s'appelle Tom, que vous avez rencontré quand il a fait une présentation d'OM et de l'Ukraine. Ça débordait chez lui. Sans le savoir, moi je lui ai envoyé un mot en lui disant « Ça va Tom, comment tu vas, t'as des nouvelles, etc. » Et le barrage s'est ouvert et il a tout sorti. Des choses qu'il retenait depuis un moment. Donc première chose, de temps en temps pensez à vos amis. Un petit mot, une fois ça peut déclencher des choses incroyables. Et il m'a dit « il faut que tu viennes. » Si t'as envie, il faut que tu viennes. Donc je crois que c'était pour être copilote. Et en fait, non. Quand il m'a donné, finalement, il a eu des dates, il m'a dit non, c'est pas copilote. Il faut que tu trouves un copilote, il faut que tu trouves un fourgon, il faut que tu le remplisses. Les dates ont changé, c'était du 21, etc. Finalement, c'est du 13 au 20. Et il y a 10 fourgons qui sont partis le 21 avril pour partir en Ukraine aussi. Nous, on n'était que 6 avec 3 remorques.
6 fourgons.
6 fourgons et 3 remorques. Vraiment un grand merci à tous ceux qui ont donné, aidé, partagé, rangé, trié, prêté, etc. Prié. On reviendra sur ce mot. Je voudrais dire, il y a même des églises qu'on ne connaissait pas, dont une église chinoise à Paris qui vient de démarrer, ils ont appris de notre projet et ils ont fait une livraison de nourriture et de produits hygiéniques depuis Paris, l'avant-veille ou le rangement du camion. Et eux, ils l'avaient appris de quelqu'un d'autre qui l'avait appris. Bon, voilà. Au début, il y a un début. Le début, c'est un début de collecte à l'Intermarché de Farmoutier. Sport 2000 a commis aussi donné des choses. Et vous avez donné énormément. D'autres églises, je pense à l'Église, Val-d'Europe, entre autres, ont donné aussi. Les pharmacies ont donné, même les pharmacies de Bar-le-Duc, pour vous dire, les transportées par la famille de Bar-le-Duc. Il y en avait beaucoup. Ça a fait plein de boîtes, vous les avez vues, à gauche. C'est une immense qu'on a récupéré d'Intermarché. À droite, il n'y avait pas que là. Il y avait les deux murs d'école du dimanche remplis, il y avait l'étage rempli. On ne savait plus où mettre les choses. Heureusement que la date approchait. Finalement, des boîtes bien propres, bien carrées. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ces boîtes-là?
Juste là.
Juste là, juste le paquet de boîtes-là. Non, pas de médicaments. Non, pas hygiénique. Non, ça ne se voit pas. 107 kilos de pyjamas hommes. Les anciens, ils s'en rappellent, c'était devant leur bureau, il fallait écarter les boîtes pour rentrer, mais 107 kilos de pyjamas hommes.
Mais on n'a pas pris que ça. On avait.
L'utilité de ça, c'est des soldats, quand ils sont à l'hôpital, quand ils sont brûlés, ils n'ont plus de vêtements, on leur enlève les vêtements, et une fois qu'ils sont opérés ou soignés, bah, ils sont tenus. Et pour leur humanité, mettre un pyjama, c'est un minimum. Après tout ça, on a collecté les boîtes, on a tout redescendu dans le couloir, des amis de l'église, des collègues de travail, des amis non chrétiens qui étaient la première fois de leur vie et pieds dans une église, sont venus pour donner un coup de main. Étiquetage, merci encore. On avait les boîtes les meilleures. On leur donnait la boîte, les boîtes vont dire ce qu'il y avait dedans, c'était déjà écrit en dessus. Comme j'ai dit, donc, toutes les boîtes étiquetées, numérotées, etc. Et malgré tout, la pizza et la bière après a aidé à faire venir les gens. Donc la prochaine fois, plus de pizza, plus de bière. Camion chargé, déchargé, parce que trop lourd, et il faut retrier pour mettre le plus important, et recharger pour arriver à, depuis Formentier, 2885 kg de matériel médical, hygiène alimentaire et vêtements. Merci à la balance de Christy Lachapelle qui a permis de poser les camions avant. Ça, c'est avant, le voyage. Le tracé. Alors, ça part de New York parce que l'autre partie de l'équipe est partie de New York aux alentours. On est passé par l'Allemagne, par la Pologne, Ukraine et re-Pologne, mais dans un autre sens, pour éviter de passer deux fois sur la même route en Ukraine, mais aussi pour trouver une frontière, une douane plus libre, pour ne pas y passer plein d'heures. On a dormi là et voilà. La première fois que le convoi s'est retrouvé au complet, c'est-à-dire nous deux fourgons, pardon, et les trois fourgons qui venaient de New York. C'est une merveilleuse équipe. Avec les noms. Et donc 12 conducteurs et un jeune homme, Quentin. Les péages, donc en France il y a le péage, et des sociétés d'autoroute ont gracieusement offert le passage pour ce vol humanitaire. On avait des papiers à montrer à donner, mais on n'a pas eu à payer le péage sur toute la partie en France, qui était une économie d'argent certaine. Forcément, on a mis beaucoup d'argent dans des pompes à essence. Et la surprise, c'est qu'en Pologne, la première station où on a fait le plein, je mets le pistolet, je fais le plein et je ne vois pas les litres parce que c'était écrit en décimètres cubes. Ça change. T'as mis les litres ? C'est pareil, hein. C'est le même truc, mais ça surprend quand on cherche le L et on ne le voit pas. L'autre chose, c'est qu'on a dû décimer, je ne sais pas combien de colonies de moustiques et d'insectes sur les pare-brises. Donc chaque fois qu'on s'arrêtait, il fallait nettoyer les pare-brises. Et vous avez entendu parler de nos petites galères sur la route. La remorque a finalement perdu deux roues. Grâce à Dieu, on les a enlevées avant qu'ils tombent. Et voilà, et ça a failli. Finalement, la remorque a atterri dans le fourgon en pièces détachées. Et un fourgon qui s'est enlissé dans la terre, comme du remorqué. 5100 km pour nous, forcément de la fatigue, et on a pu dormir dans deux hôtels différents en Pologne. Mais une mention spéciale quand même pour OM Allemagne, donc à Mosbar, qui nous ont accueillis à l'aller et au retour. Et chaque fois qu'on arrivait, on était en dehors des heures, bureau, on va dire. Mais ils avaient préparé les chambres, c'était comme des mini dortoirs. La première nuit, ils ont permis de manger dans leur réfectoire. La deuxième fois, des volontaires sont restés exprès pour nous faire à manger et nous préparer le petit déjeuner pour 5h30 du matin le lendemain pour partir tôt. Donc merci encore une fois au OM Allemagne, le réfectoire, des lits. Et comme tous les Allemands, quand vous achetez quelque chose en Allemagne, vous recevez un colis, il y a un petit paquet de bonbons dedans. Vous avez déjà vu ça? Bah, eux, sur l'oreiller, il y a un petit paquet de bonbons. Donc on a fait tout le dortoir pour des le voyage, 2 heures à l'aller. C'était un record.
Non, à la douane, arrivé à la douane.
À la douane, oui.
Douane entre Pologne et Ukraine.
Voilà, entre la Pologne et l'Ukraine. Il faut montrer les papiers, il faut dédouaner les produits qu'on a dedans. Bien sûr, eux, ils disent, mais c'est qui ça, on fait ça. Et on ne parle pas un mot d'Ukraine non plus. Donc ça, au retour, 4 heures. Aussi un record entre donc, Ukraine, Pologne, cette fois-ci. Voilà. Et on n'a pas pu sauter la queue, mais on a partagé du café et du gâteau avec les camions autour de nous. Pour finalement arriver l'autre côté de la voile et le premier panneau ukrainien. Et là, tout change, les routes changent. Vous imaginez en Allemagne, c'est un billard. Vous arrivez en Ukraine, c'est un billard. Les routes, ils ouvrent à droite, à gauche, c'est déjà. Et on commence à avoir des véhicules qu'on n'a pas vu depuis des années, et aussi des véhicules militaires. Un checkpoint à droite, des monuments espacés régulièrement, et des petits jeux à droite, mais qui sont gros comme ça, qui sont des anti-chars. Il y en a partout. Encore un checkpoint où vous êtes obligé d'arriver lentement, être prêt à vous arrêter si on vous arrête et qu'on vous questionne. Encore des anti-chars. Une chose qui nous a surpris, dès qu'on a passé la frontière, il y a des églises partout. Mais partout. Il y a des gros, énormes, ça c'était à Kiev, et il y en a d'autres avec de la tôle ondulée sur les toits, mais vous avez des petits qui sont juste pour deux personnes. C'est un lieu de prière. Bon, avec un cimetière en blanc, en plaqué or, etc. Et à droite, c'est une chapelle qui est au milieu d'une plaine, et on voit pas sur la photo, mais à gauche, en fait, c'est que des bancs. En fait, c'est une église en plein air. Encore d'autres églises partout. On a vraiment, c'était une surprise. De la publicité pour l'armée, quand je dis de la publicité, motivée pour le recrutement des armées, pareil, partout. On a croisé plusieurs bus dans un éclat incroyable, mais en fait, c'était des soldats qui, on pense, partaient au feu. Mais la vie continue. Ils ont encaissé ça, ils vivent en disant il y a la guerre, on va le faire, mais il faut continuer à vivre. Et vous verrez un peu plus tard des choses démolies. Dès qu'ils ont le temps, ils rasent et reconstruisent. Parce que vous allez nous anéantir, mais nous, on va repousser. Et la vie continue. J'ai pas mis, mais il y a Auchan, il y a Decathlon, il y a Leclerc, quoi dans Leclerc, Castorama, bon. Toutes les McDo, Burger King, Kentucky. Oui, tout est là-bas, c'est et on a pu visiter un marché local à Karalik. Donc, vous vous rappelez des petites abeilles? C'est la dame qui avait les pots de miel. Elle croyait qu'on allait acheter son stock, on a acheté son téléphone portable pour appeler du second. Finalement, on n'a pas tout acheté. À droite, l'enseigne ne dit pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'était des vêtements typiquement ukrainiens, mais la pub pour des vitrages, je trouve ça pas mal. Ils vont bien. La capitale, donc Kiev, I love Ukraine, en bas à droite, je traduis de mieux en mieux. Et à gauche, surprenant, ils affichent clairement qu'ils sont européens et qu'ils veulent faire partie de l'Union européenne. Donc un drapeau sur deux, c'est le drapeau de l'Europe. L'Ukraine, depuis le début de la guerre, donc il y a 2014 et il y a deux ans, prend position et, par exemple, le maire d'Ukraine, je crois que ça s'appelle, c'est une grande, une énorme statue à Kiev. Il y avait le marteau et la faucille avant. Et l'année dernière, ils l'ont enlevé et ils ont mis le trident pour l'Ukraine. C'est un symbole ukrainien. Sur une place, un début de stock de vieux équipements militaires russes. Sur le retour, on a pu passer par Borodianka, je ne sais pas comment on appelle ça. C'était ça, mais partout.
Et encore, ils ont beaucoup reconstruit.
Oui, et comme dit, il y a 6 mois, c'était pire. Et ils reconstruisent dès qu'ils peuvent. Simplement, cette arche a été construite par les Russes pour lier l'amitié russe-Ukraine. Et en fait, ils ont demandé à un artiste de venir et de transformer ça. Et il a peint une fissure dans l'arche. Et maintenant, l'arche, c'est l'arche de la liberté du peuple ukrainien. Ça, c'était le voyage. Là où je ne vais pas trop parler. Maintenant, en action. Kiev, donc la capitale. Tout ce que vous avez donné, tout ce qu'on a dans les véhicules, on leur a livré. Leur ministère, c'est d'aider particulièrement les réfugiés qui sont sur le front. Donc, tout ce qui est là part à un moment donné dans un entrepôt qu'ils ont à 20 km du front. Et la semaine avant qu'on arrive, un fourgon était parti là-bas. une semaine après qu'on soit parti. Un fourgon est reparti là-bas, et ça, c'est des produits que vous avez donnés. Donc c'est des familles qui ne peuvent pas quitter la guerre, et qui n'ont rien. Donc ils sont aidés par ce moyen-là. Alimentaire, hygiène et un petit peu de médicaments. Donc on a été accueillis par, je vais en avance, par le pasteur Polikénir et Nina, qui nous ont accueillis chez eux, qui est en fait aussi le bâtiment de l'église, avec un petit repas simple le soir, on a dormi, donc là maintenant un petit déjeuner, on a pu parler avec eux pendant plus d'une heure, avant de décharger le camion et repartir. Une joie énorme de nous voir arriver. À la rigueur, les colis étaient secondaires. Le vœu de Nina, qui est debout, là, à la fin, c'était qu'on puisse revenir quand la guerre sera finie pour qu'ils nous montrent leur beau pays. Il y avait des non-chrétiens dans notre groupe, ils ont posé des questions sur comment vous vivez. Avec quoi vous vivez, d'où vient votre argent, et ils ont été transparents et ils ressemblent beaucoup à nous. C'est des dons, des membres. Le pasteur ne gère pas l'argent. Etc. Et après, on leur a posé la question, je crois que c'est là qui est importante, c'est dans toutes ces situations, comment est-ce que vous faites pour ne pas haïr vos ennemis? La réponse courte et simple, c'est difficile. Mais la Bible nous dit, et ils nous ont exprimé comment eux doivent faire pour aider leurs ennemis. Ils ont eu les Russes au bord de leur rue. Il y a des forêts qui ont été minées par les Ukrainiens pour essayer de protéger la ville. Aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas y retourner parce qu'ils ne savent pas si tout a été enlevé. Et elle a dit, si un soldat vient et il est blessé, oui, je vais le soigner, oui, je vais le nourrir, mais je vais le donner à la police après. Leur manière de vivre ce commandement, d'aimer vos ennemis.
Ils ont beaucoup exprimé aussi les difficultés de vivre en tant que chrétien évangélique en Ukraine, parce que c'est pas mal associé aux États-Unis, donc pas bien. Et donc voilà, on ne dira peut-être pas les persécutions, pas là à Kiev, mais plus vers le front, oui. Et puis surtout, on a découvert à travers leurs témoignages ce que tous les pays peuvent vivre qui sont en guerre, hein, finalement. C'est surtout aussi le déchirement des familles qui nous a pas mal impressionnés. Nina nous partageait comment sa cousine qui habite en Russie, à Moscou, comment elle, sa vision des choses est complètement différente. Elle entend le côté russe et que le côté russe. Et malgré le fait qu'elle ait grandi en Ukraine, finalement, cette guerre les sépare, Nina et sa cousine, et elles ne se comprennent plus, quoi. Et bon, ça arrive avec toutes les guerres, mais voilà, le déchirement des familles, l'incompréhension. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Russes qui habitaient en Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens qui habitaient en Russie, c'était assez libre, et voilà. Mais tout ça, ça change avec la guerre.
Il y a une volonté pour parler ukrainien et pas russe. La majorité de la population, a priori, parle russe. Donc ils font un effort. Et Nina disait que quand elle fait, par exemple, l'école du dimanche, ils prennent la Bible en ukrainien parce qu'ils veulent éliminer le russe. Mais des fois, elle est obligée de leur apprendre à lire et à comprendre l'ukrainien. Parce qu'à la maison, ils parlent russe. C'est pas ça, je veux dire. On a enregistré cette conversation, si jamais ça vous intéresse, c'est pas plus mal, avec traduction. On a pu partager, on a mis avec nous deux lettres de David Hitchcock et de Nicolas. Et là, on a pu en lire une et leur partager. Ils étaient en larmes. Ils nous ont dit, il y a des moments où c'est tellement dur, on n'arrive plus à prier. Mais on sait que vous priez à notre place. Ça fait des frissons, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on prie à leur place aussi, mais pas oublier. Ça, c'est ce qui les a plus touchés que les tonnes de matériel.
On aurait pu juste leur envoyer de l'argent. Quoi.
On aurait pu. On aurait pu louer un camion avec un chauffeur, prendre 3 tonnes, et on aurait pu faire un voyage. Mais c'était pas ça. Oui, ils avaient besoin de voir les 13 personnes qui étaient là.
Et c'était en fait un encouragement mutuel. À chaque fois qu'on a rencontré des personnes, nous les encourageons, mais eux nous encourageaient en retour. On n'a pas entendu ça.
On va passer. Donc tout à l'heure, on a un temps de prière. Pasteur Paul Edimir de Nina, professeur de l'église de Kiev. Alors, ici, c'est un peu plus qu'un village. C'est là où il y a un centre pour les enfants en détresse, les familles dysfonctionnelles et accueil de réfugiés. Le centre est géré, c'est un mélange de OM et d'une église locale. Les colis qui sont arrivés de New York, en fait, ils avaient passé du temps avec des écoles qui avaient accepté de participer à la collecte. Ils ont fait plein de dessins, des coloriages, etc. Ça aide et c'est beaucoup apprécié des soldats blessés aux hôpitaux. Donc, ça arrivait là-bas. Tous les cartons n'ont pas survécu le voyage à cause de la pluie. Donc, il y a certains cartons qui allaient faire boîte par boîte. On a mis un système de chauffage à bois, un poêle à bois pour une des maisons. Et quand on parlait des familles dysfonctionnelles, c'est des familles tellement pauvres, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas nécessairement d'eau courante et il n'y a surtout pas de chauffage. Quand les sirènes sont lancées, les écoles doivent envoyer les enfants dans la cave de l'école et seuls les parents peuvent venir les chercher. Ces parents-là ne viennent pas chercher leurs enfants. Donc c'est le centre dont on va vous parler qui fait office de parents et qui vont les chercher et qui les ramène. C'est un peu comme leur deuxième famille. Donc ça, c'est pour équiper une maison avec un chauffage. Un peu loin, Shane qui nous a accueillis, missionnaire australien avec Owen, donc sa femme qu'on va voir s'occupe des enfants, et lui s'occupe des parents, des familles dysfonctionnelles, et un groupe d'hommes. Et il a dit, il n'y a rien de tel qu'un sauna avec une bière pour faire parler les hommes. Il nous a servi de super repas aussi. À chaque fois, c'est nous qui nous accueillons. C'était vraiment bien. On arrive au centre pour les enfants. Certains, comme Tom et Marie, les connaissaient déjà, les ont vus plus petits. Et ça a été des accolades, des embrassades, des pleurs, etc. Les enfants, avec quelques-uns des accompagnants. La femme de Jane, Jemima, je ne parle pas. Avec trois des jeunes filles. Donc dans ce centre, donc on les aide à faire leurs devoirs, parce qu'à la maison, ce n'est pas possible, mais aussi on leur apprend les histoires de la Bible, on leur enseigne la parole de Dieu, mais aussi comment se laver, comment cuisiner, comment s'habiller, comment s'occuper de soi, comment vivre en groupe, parce qu'à la maison, il n'y a pas ça. Et donc du coup, quand on les voit, elles sont toutes bien sereines, etc. Et il y a des garçons aussi. C'est vraiment impressionnant. Dans un des fourgons, il y avait des vélos pour les plus petits. Vous voyez la tête de la petite fille. Ils étaient super heureux. Il y avait des ordinateurs, il y avait pas mal de choses. Je n'ai pas mis la photo. À la suite de ça, Shane nous a amenés juste à l'extérieur du village, où on a le fleuve Dniepre. Ça se propose comme ça. Il y a quelques mois, si on se mettait là, on se faisait tirer dessus de l'autre côté de la berge par les soldats russes. Juste à droite, il y a des tranchées dans le sol. En hiver, ils marchent sur de l'eau pour aller à la pêche. C'est au quotidien. Un peu plus loin, c'est à 20 km un peu plus à l'intérieur des terres, Karavik. Et là, c'est où il y a l'église de Karavik où on a été, qui fait aussi office de centre pour OM Ukraine, le quartier général. Et on va parler de deux autres choses, ce qu'ils appellent l'Enterprise et l'aumônerie. Donc, l'Enterprise. Euh, La ville faisait 15 000 habitants, elle en fait 30 000 aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de travail avant, maintenant il n'y en a vraiment pas. Pour pouvoir partager sa foi, pour parler de Dieu, il faut que les gens soient dans un état pour recevoir cette conversation. Donc, il faut qu'ils aient du travail. Donc, une des idées dans l'Ukraine, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour créer du travail, créer de l'emploi, si un homme ou une femme travaille, c'est une famille qui est nourrie. Et c'est une famille qui va mieux. Ils ont, dans le passé, dans leur centre, fait pousser plus de comment on avait dit
3000 tonnes par mois.
3 tonnes de champignons dans les caves de l'église par mois, jusqu'à ce que les trucs soient mal mélangés et ça a tout tué. Ça faisait travailler des dizaines de personnes, etc. Donc l'idée qu'ils ont aujourd'hui, c'est de faire du recyclage. Donc tout ce qui est plastique, déchets végétaux, ou ce que la ville ne peut pas jeter, le transformer soit en gaz, soit en GBL, pas aux normes, mais GBL quand même, du bitume ou du charbon. Donc on pourra se déplacer, on pourra se chauffer et avoir des routes dans le meilleur état. L'idée, c'est que tout ça travaille, produit du travail, produit de l'argent, 70% réinjecté dans l'entreprise, 10% pour OEM pour continuer leur mission, 10% pour l'église locale, 10% pour la communauté, etc. Ce qui donne du recyclage de déchets gratuits qu'ils collectent partout. L'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils taillent les arbres le bord de la route. Si c'est plus de 10 cm, ça part dans les cheminées. Si c'est moins de 10 cm, ils en font des copeaux, de la poussière, et après ils font des briquettes. Les briquettes permettent de chauffer une chaudière qui fait l'électricité.
Tout ça, c'est ils ont regardé quels étaient les besoins autour d'eux et se sont dit comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'il y a là pour créer de l'emploi et du chauffage et tout ce qu'il faut.
Voilà. Donc les gens qui travaillent actuellement dedans sont des locaux et des réfugiés. La partie jaune et noire, intéressante, juste avant la guerre, McDonald's était partenaire de ce projet. Et ils ont payé la moitié du deuxième étage. Après, quand la guerre a déclaré, McDo s'est retiré et ils ont continué par d'autres moyens. Pour ceux qui ont des machines.
Donc c'est de la pyrolyse.
La pyrolyse. Et à gauche, vous avez Josh, donc, qui est un jeune ingénieur en mécanique anglais, qui est parti comme missionnaire avec OEM. Donc c'est lui qui drive, donc à la place de Tom, cette cuisine. À droite, un vieux moteur diesel qui a été transformé pour rouler au gaz que eux produisent pour fabriquer l'électricité. Omorine, Kolia, ancien soldat, il était à la guerre il y a un an, il est tombé gravement malade. Il a été amené à l'hôpital militaire de Kiev pour être soigné. Et il doit y retourner régulièrement. Et quand il est parti la première fois, il s'est dit « mais je dois aider les autres, je ne peux pas retourner au front, mais il faut que j'aide ». Et il a été certifié ou validé comme aumônier. Et chaque fois qu'il retourne à l'hôpital pour se faire soigner, il avait le droit, il avait accès aux dortoirs et aux chambres des soldats ou autres blessés dans l'hôpital. Quand on l'a vu, donc il y a bientôt un mois, il venait d'être crédité pour faire les 3 hôpitaux militaires de Kiev. Donc c'est le seul qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup d'aides-soignantes, il y a a priori un groupe qui tourne et qui aide, c'est genre plus le ménage et autres, mais pour s'occuper des blessés, il n'y a personne. Ne serait-ce qu'on se fait amputer les jambes, se retourner dans le lit. Ça a l'air bête, mais lui, il va, il tourne, il dit « oui, et je te retourne, etc. » Une des choses qu'il fait, c'est qu'il apporte les dessins des enfants, les coloriages. A priori, c'est en dehors des bonbons, c'est ce qu'il préfère. On leur amène aussi du médicament, du cucra, des béquilles, des chaises roulantes. Toutes les chaises roulantes qu'on a sont parties là. On a fait des chaises roulantes électriques, donc pas mal. Église, donc de Karavik. C'est l'entrée principale. L'autre côté, c'est un peu l'entrée OM. Et un verset qu'ils avaient approché, c'est le psaume 36. crois que c'est une fête de l'éternel des délices.
On a toujours été très bien accueillis partout. Donc là, à notre arrivée tardive, il y avait une des femmes de l'église qui a apporté 3 tulipes pour chacune des femmes présentes. Les Ukrainiens ont de beaux jardins. On a vu qu'ils apprécient beaucoup leur jardin et leurs fleurs.
Donc c'est eux qui nous accueillent. Nous, on vient les aider, mais c'est eux qui nous ont accueillis. J'ai parlé de l'entrée de l'église. Si vous faites 180 degrés, ça, c'est ce que vous avez. Donc, il y a un monument aux morts qui est au bout, et tous les panneaux, c'est des soldats de la ville qui sont décédés. Et il y a d'autres panneaux. À un moment donné, ça va toucher l'église. Certains membres de l'église, plusieurs membres de l'église, sont venus et nous ont invités à un restaurant un peu traditionnel. Ici, c'est Wayne, et à côté de lui, Olia. Donc, Wayne, c'est le directeur d'OM Ukraine. C'est lui qui a une minute, une 10 minutes, une idée toutes les 10 minutes pour trouver du travail. Pour ceux qui connaissent, c'est un genre d'écrit short, mais pour le travail. Incroyable. On a lu la deuxième lettre, je crois que c'était celle de Nicolas, lors de ce repas. Encore une fois, le pasteur que je vais vous montrer, qui est au fond, au bout de la table, il a dit qu'il allait nous répondre. Comme ils allaient répondre, ils allaient nous envoyer un courrier, etc. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, par contre, ça va passer. Mais il a un travail compliqué et difficile. Un selfie de Yura, donc c'est lui qui m'a donné la question. Le gars, c'est un colosse. Si je veux frotte le plafond de toutes les voitures dans lesquelles il s'y est. Quand on est parti, donc à 6h du matin, lui est venu pour nous dire au revoir. Une anecdote pour lui, ils sont en train de faire l'anecdote aussi. Donc, il est membre de l'église de Karalik et c'est un des employés de l'usine de recyclage plastique. Et quand il a du temps, il prend sa voiture, il avait un Volkswagen à Touran, donc c'est pour ceux qui connaissent. Et il part au fond. Il connaît très bien la route, c'est à plus de 700 km. Il part et à un moment donné, il arrive sur un checkpoint, donc il ralentit comme il faut. Et là, il voit des soldats qui sortent et qui lèvent une carabine et qui commencent à lui tirer dessus. La voiture, elle est trouée. Lui, c'est un colosse. Pour le rater, il faut le faire exprès. Il a juste le temps de rabaisser le dossier de son siège pour essayer d'attraper son gilet pare-balles quand les fusillades s'arrêtent. Donc il lève la tête un peu et il voit les soldats russes qui ont fait demi-tour et qui sont en train de partir en courant. Il ne devait pas y avoir de soldats russes à cet endroit-là. Mais son témoignage, c'est « Merci Seigneur, il m'a protégé, maintenant je peux continuer à partir au front, chercher des familles ou des personnes en difficulté qui ne peuvent pas quitter le front et les ramener sur Karabakh. »
On va pas raconter toutes les histoires qu'on a entendues, mais c'est vrai qu'on a entendu plusieurs personnes qui ont eu des témoignages sur des bombes qui sont tombées sur le toit ou tout autour et qui, par miracle, n'ont pas explosé. Donc quand on a 14 bombes qui tombent sur le toit et qui n'explosent pas cette nuit-là, les soldats aussi se posent des questions et se tournent vers Dieu aussi à travers ça. Donc malgré une situation dramatique, le Seigneur quand même touche des cœurs.
Et c'est le travail que font donc Volodymyr, Nina, la liste, d'accompagner ces personnes-là qui ont été interpellées par Dieu. Pour nous raconter des trucs, c'est un racontable. Juste un mot, c'est trop catastrophique. On n'a pas le droit de rentrer dans un hôpital militaire. Et Konya, il a accès. Donc il a invité une dame, la femme d'un soldat à venir, il a réussi à l'autoriser. Ces soldats sont dans une détresse incroyable. Ils ont seulement les images de la guerre, mais ils sont blessés. Et quand ils se réveillent, ou quand ils réalisent qu'ils sont abîmés, c'est un traumatisme au total. Cette femme, elle est rentrée, elle a vu son mari, elle s'est évanouie. Le choc. En tombant, elle s'est tapée la tête. Et Koya est là. Et cette dame est devenue une maman. Parce que ça a tapé trop fort. Ce soldat-là, il il est KO là maintenant. Physiquement, plus de famille. C'est une catastrophe. Et ça, c'est tous les jours.
Et comme on sait, c'est pas que en Ukraine.
Non.
Nous, on a visité l'Ukraine, on peut vous parler de ça. Je voulais quand même qu'on s'encourage par un passage dans Romains 12 qui nous interpelle, nous, en tant que personnes. On sait vraiment. Enfin, une des choses qui m'a frappée en y allant, c'était tout cet échange entre les deux et cette expérience de faire comme Paul, qui avait collecté tout ce que les églises avaient bien voulu donner pour amener à Jérusalem. Nous, on a collecté pour amener en Ukraine. Et qui y sont allés eux-mêmes apporter. Et Paul qui disait, j'ai tant envie de vous voir, les Romains par exemple, pour vous apporter une parole d'encouragement, mais pour aussi être encouragé par vous. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Et bon, on n'y retournera pas tout le temps, mais on peut continuer à s'encourager par la prière les uns pour les autres. Mais en tout cas, ce passage dans Romains 2, je trouvais qu'il était parlant pour nous, ici en France, dans notre situation, mais aussi encore plus parlant pour eux, dans leur situation en Ukraine. Et je vous propose de lire ensemble, et ensuite les enfants pourront sortir. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalant. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez bon serviteur. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires. Toujours prêt à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie, excusez-moi. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Inviter les enfants à rejoindre leur classe et puis nous passerons un temps à partager des sujets de prière et à prier pour l'Ukraine.
Au fond de la campagne, C'est pas Dieu, c'est le même. Leur sujet de prière qui demande, parce qu'on voit les accompagner vers ça, c'est savoir mettre en pratique aimer ses amis. Bon, on a lu le morceau du verset. C'est difficile de l'ignorer, il y a des traces partout. La persévérance dans la foi et le témoignage chrétien de chacun de chacun de ses responsables, mais des autres chrétiens, des églises, renouvellement des forces pour les œuvres, entreprises, tout ce qui a été entamé, qui puisse continuer. Comme Nina nous disait, quand je n'ai pas la force, je sais que vous priez à ma place. Centre des enfants, l'aumônerie, les églises, l'usine qui crée de l'emploi, l'accueil des réfugiés. Et oui, la fin du conflit. J'ai mis en bas les noms de toutes les personnes avec qui nous avons pu discuter et qui nous ont beaucoup apporté. Et je propose que si on prend le temps pour prier, pour ces sujets-là, et peut-être particulièrement pour ces personnes.
Je vais être égoïste ce matin. On va rebondir sur ce qu'on a entendu et je vais laisser de côté ce que j'avais préparé. Pourtant, Dieu m'avait parlé cette semaine. Et j'ai bataillé avec ce message tout au long de la semaine, mais je pense qu'il vaut mieux rester sur ce qu'on a entendu et donner un mot peut-être d'envoi par rapport à ce qui nous a été partagé ce matin. Alors je vous invite à lire le psaume 46, qui est le psaume que j'avais en tête quand j'ai écrit la lettre que m'avaient demandé Clive et Elisabeth, en pensant justement à ce qu'on pourrait peut-être partager un peu avec nos frères et sœurs en Ukraine. Je vous invite donc à lire le psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dans ce passage, on peut voir trois choses, en tout cas, qui font écho à ce qu'on a pu entendre dans cette première partie de culte. La première chose, c'est que Dieu est souverain. On l'a entendu dans les prières, et face à ces situations qui peut-être nous désorientent, nous insécurisent, comme les guerres, comme ces événements qui sont aux portes de l'Europe pour nous, eh bien, il y a ce rappel fort que Dieu est souverain sur toute chose, que tout est entre ses mains, qu'il conduit les événements, que rien ne lui échappe. Même la guerre ne lui échappe pas. La seconde chose qu'on peut noter dans ce passage, c'est que Dieu n'agit probablement pas comme on imagine qu'il devrait agir. On a l'impression que ce que devrait faire Dieu, c'est justement faire que les hommes vivent en paix, faire que les choses s'améliorent, faire que ces situations dramatiques cessent immédiatement, que ça c'est la volonté profonde de Dieu, et qu'il devrait tout mettre en œuvre pour que les choses se passent ainsi. On n'a pas complètement tort, mais on rate quelque chose. La première chose que Dieu veut, c'est qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et tous les événements qui se passent sur cette terre ont quelque part pour but ultime, même les plus dramatiques, d'amener le genou de l'homme à fléchir devant lui pour reconnaître qu'il est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à cette situation ? Eh bien, je pense que c'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne va pas pouvoir dénouer les enjeux géopolitiques de chaque situation de ce monde. Par contre, on peut rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Si la priorité de Dieu, c'est le royaume de Dieu et non pas le royaume des hommes qui s'unissent ensemble et qui font la paix, eh bien, œuvrons pour le royaume de Dieu. Et justement, voyons comment nous pouvons être un encouragement, comme on l'a entendu ce matin, pour des frères et sœurs qui se passent par des moments difficiles. On l'a aussi entendu ce matin, il y a des frères et sœurs aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Comment agir, comment être un sujet d'encouragement, comment faire que l'évangile aille justement dans chaque recoin de la terre. Et si c'était ça qui nous aidait justement à être apaisés face à toutes ces situations qui nous insécurisent, à toutes ces situations qui nous bouleversent, rejoindre Dieu dans la mission qui est la sienne, faire de toutes les nations des disciples. Alors, je vous propose tout simplement pour finir ce petit moment, eh bien d'entendre ces fameux courriers. Donc moi, je n'ai pas le deuxième, j'en ai qu'un. Et voilà, de voir comment... Alors, j'étais dans un autre état d'esprit que celui de ce matin quand j'ai écrit ce courrier, mais de voir voilà, ce qu'on a essayé de transmettre à ses frères et sœurs à l'autre bout de l'Europe. Chers amis, plus de 2000 km nous séparent, mais grâce au voyage entrepris par nos chers Clive et Elisabeth, cette distance s'est un peu réduite. Pour nous, la guerre semble, j'ai mis entre parenthèses, certes encore lointaine. Mais la manière dont les uns et les autres ont pu se mobiliser, là je faisais écho à vous, pour vous faire parvenir un peu d'aide, montre que votre situation touche beaucoup d'entre nous ici. Nous sommes conscients que notre soutien est insuffisant pour répondre à cette guerre. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir pu participer, en partie, à pourvoir à vos besoins humanitaires. En tant que pasteur, j'imagine la tâche particulière qui vous incombe, et je m'adressais donc aux pasteurs dont on fait mention, Clive et Elisabeth, en cette période d'insécurité et de confusion. Je prie que cette situation dramatique contribue à renforcer la foi des chrétiens d'Ukraine. Dieu nous assure que notre vie est si précieuse à ses yeux qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils afin que nous ayons en lui la vie éternelle. Votre persévérance dans cette épreuve est un puissant témoignage pour nous, qui nous rappelle que Dieu est un refuge pour celui qui est dans la détresse. Notre confort et notre insouciance en France nous éloignent si souvent de cette vérité. Je pense en particulier au psaume 46, que je veux méditer pour nous préparer. Si Dieu décidait de nous envoyer une situation similaire à ce que vous vivez actuellement dans votre pays, nous voulons apprendre à prier pour vous. Aussi, n'hésitez pas à confier des sujets à Elisabeth et à Clive, qui sauront nous encourager à persévérer dans ce domaine. La mission continue pour nous. Après ce culte, continuez de porter dans la prière nos frères et sœurs d'Ukraine. C'est Elisabeth pour suivre le culte.